Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui va nous permettre d'aller à la rencontre de deux économistes experts de la finance, des marchés financiers et des relations internationales, Antoine Brunet et Jean-Paul Guichard, qui viennent de faire paraître chez L'Harmattan la visée hégémonique de la Chine, l'impérialisme économique, un ouvrage de 204 pages pour 21 euros. Alors, ce duo d'auteurs est représenté aujourd'hui à notre antenne par Antoine Brunet. Antoine Brunet, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous recevoir à Canal Académie.
Merci de m'avoir invité.
C'est un plaisir. Vous êtes un expert puisque vous avez été désigné premier au classement Greenwich des économistes de marché parisiens de 2003-2006, ce qui est une référence. Mm-hmm. Vous avez quitté la banque en 2007 pour créer AB Marché, une société d'analyse et de conjoncture de marché. Et votre co-auteur, Jean-Paul Guichard, est de son côté plus intéressé par les relations internationales, l'histoire et l'analyse économique. Et il est professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis et à une chaire Jean Monnet de l'Union européenne.
Exactement.
Donc voilà, il n'y a pas de doute sur l'expertise et la qualité des auteurs. Et cet ouvrage, je le crois, fera date. Car il s'inscrit contre le déni de réalité qui est à l'œuvre actuellement, dans lequel on continue du côté des pays occidentaux à regarder le miracle de l'économie socialiste de marché comme celui d'une petite souris qui est très loin de commencer à devenir un animal dangereux. Or, ce que vous êtes en train de dire et que vous démontrez dans votre ouvrage, c'est qu'il n'en est rien. La Chine a une visée hégémonique et une stratégie tout à fait claire et son impérialisme est tout à fait en place pour pouvoir succéder aux autres impérialismes qui, tour à tour, ont disparu, à commencer par l'Angleterre et peut-être demain les États-Unis et l'Europe. Alors voilà donc le cœur de votre propos. Oui. La première question que j'aimerais vous poser, c'est bien entendu de vous dire pourquoi vous avez voulu faire paraître ce livre à ce moment-là et quel est le centre, le cœur même de votre message.
Eh bien, ce qui nous a motivés, c'est les premiers signes de la crise. Lorsqu'on a vu apparaître les premiers signes de la crise, on s'est tout de suite rendu compte, mon co-auteur et moi, que c'était une crise profonde, une crise des seuls pays occidentaux et non pas de la Chine ou de l'Inde. Et une crise qui nous atteignait très profondément et qui était susceptible d'être aussi grave que celle des années 30. Et évidemment, nous sommes à ce moment-là, nous étions déjà alertés sur le fait que la Chine bousculait et déstabilisait les pays occidentaux. Mais quand nous avons pris la mesure de la crise des pays occidentaux et que nous avons assez naturellement, comme on pourrait y revenir, connecter cette crise à la stratégie que mène la Chine, nous avons considéré qu'il était urgent de publier. C'est d'ailleurs à un moment donné, nous avons choisi de précipiter le livre. On aurait pu certainement améliorer la rédaction, mais nous avions préféré sortir le plus vite possible le livre, de façon à ne pas perdre l'actualité.
Bien sûr. Alors, ça, c'est une très bonne raison. D'ailleurs, ça, rien ne vous empêchera d'en faire sortie en livre de poche
plus élaborée.
Il est effectivement extrêmement complet. Il a donc une dizaine de chapitres. Alors, ce que vous soulignez dans le chapitre 3, c'est la logique de cette stratégie mercantiliste chinoise, de ses excédents extérieurs et des avantages qu'elle s'en procure. Alors que par ailleurs, vous opposez cette stratégie à celle notamment du Japon ou avant de l'URSS, qui tous les deux, pour des raisons diverses, ont échoué dans leur logique hégémonique.
Oui.
Et par contre, la Chine, elle s'y prend autrement, en s'associant en quelque sorte et en devenant sous-traitant, dites-vous, du monde occidental et en trouvant des complices qui sont les grandes firmes multinationales. Alors, c'est quoi ces résultats constatés de cette stratégie chinoise ?
Ce qui est très intéressant, votre question m'y amène, ce qui est très intéressant de relever, c'est que la Chine prend toutes les leçons historiques à son compte. Et vous avez, je me permets de signaler à vos auteurs, un site qui s'appelle Atoll, Asian Time Online, dans lequel, pour une fois, le think tank Chine se montre un peu transparent. Et sur ce site-là, vous pouvez lire que la Chine a tiré des leçons distinctes de l'échec russe et de l'échec japonais. L'échec russe, c'était à partir de 1950, Staline et ses successeurs qui ont cherché à rivaliser avec les États-Unis directement sur le plan technologique et militaire et avec une vision militaire de la victoire sur les États-Unis. Cela a échoué, même si, rappelez-vous, l'URSS a quand même marqué quelques points spectaculaires, dans le domaine spatial en particulier. À un moment donné, l'URSS avait réussi à dépasser les États-Unis. Mais là où l'URSS a échoué, c'était justement sur sa capacité à industrialiser son pays valablement. Et à la fin, pour l'URSS, du fait que l'URSS avait maintenu son régime collectiviste et non pas capitaliste, l'URSS a peiné sur le plan économique et donc à la fin sur le plan militaire et a finalement abouti à la défaite en 1989 avec la destruction du mur de Berlin. Le Japon, autre tentative, le Japon, lui, est un pays capitaliste qui a cherché à déstabiliser les États-Unis tout en restant leur allié. Mais il y avait une tentative quand même des Japonais de prendre l'ascendant sur les États-Unis en pratiquant eux-mêmes un capitalisme mercantiliste qui aboutissait à des excédents extérieurs colossaux pour le Japon qui déstabilisait les États-Unis. Mais les États-Unis ont été très vigilants à l'époque contre le Japon dans les années 85 à 90. Et les États-Unis avaient réussi sous M. Reagan à extraire du Japon qu'il abolisse son contrôle d'échange. Dès le moment où le Japon a aboli son contrôle d'échange, il s'est rendu vulnérable à une appréciation inopportune, en dépit d'eux-mêmes, du yen. Et dans les années 85 à 90, les Américains ont inondé le Japon de flux de capitaux qui ont fait monter le yen jusqu'à mettre en échec la politique mercantiliste du Japon.
Et il continue toujours d'être dans la dépression, dans tous les sens du mot.
Tout à fait.
Donc ils ont payé longtemps.
Parce qu'effectivement, les États-Unis leur ont envoyé des capitaux pour faire monter le cours de leur monnaie et ils ont réagi en portant leur taux d'intérêt à 0%. En portant leur taux d'intérêt aussi bas, ils ont provoqué une double bulle boursière et immobilière suivie d'un double crash et qui les a définitivement mis au tapis. Si on prend maintenant la Chine, donc elle a tiré première leçon de l'URSS, elle a dit collectivisme terminé. Ça, c'était fait par M. Deng Xiaoping en 1978. Et si on prend la leçon qu'a tirée la Chine du Japon, c'est de maintenir son contrôle d'échange de façon à pouvoir verrouiller définitivement son cours de change au bas niveau qu'elle lui a assigné. Et vous en avez un exemple actuellement. Le taux d'intérêt en Chine est à 6,5. Le taux d'intérêt aux États-Unis est à 0%. Il y a des capitaux qui se dirigent des États-Unis vers la Chine. Mais une partie ne peut pas rentrer à cause du contrôle d'échange. Et pour la partie qui réussit malgré tout à y rentrer, la Chine intervient et empêche
de recycler ses capitaux,
de s'apprécier.
C'est ça.
Et donc la Chine conserve un avantage majeur.
Oui, alors, à travers ce que vous décrivez, je répète, cet ouvrage est d'une limpidité et d'une clarté qui est assez exceptionnelle. La question qui naturellement vient à l'esprit, c'est de se dire, mais si les choses sont aussi claires, si ce capitalisme totalitaire que vous décrivez, sur lequel d'ailleurs le Cercle Turgot avait à un moment donné porté sa réflexion, est en train de gagner sur tous les plans d'une façon aussi évidente, alors pourquoi et comment les pays occidentaux ont accepté la double sanction, d'accepter la Chine dans l'OMC et par ailleurs de lui laisser faire les choses que l'OMC interdit, c'est-à-dire au niveau d'échange. Alors quel est cet aveuglement ?
Déjà, l'OMC n'a pas vocation à statuer sur l'échange, malheureusement.
Non, mais
c'est le grand reproche qu'on peut lui faire.
C'est ça. Donc, sans cette garantie
tout à fait. Alors, je crois qu'en fait, déjà, il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'en fait, le totalitarisme est l'ennemi de la démocratie depuis presque 100 ans. Ça commence en 1917 avec le collectivisme totalitaire en URSS. Ça se poursuit avec le capitalisme totalitaire en Allemagne, en Italie et au Japon dans les années 30 et 40. Et ensuite, ça revient avec un collectivisme beaucoup plus fort côté russe entre 1945 et 1990. Et la Chine, quand l'URSS s'est effondrée, la Chine a pris le relais et est maintenant le capitalisme totalitaire qui menace les démocraties. Donc, faut quand même jamais oublier que, en quelque sorte, on est depuis presque 100 ans confronté à différents types de totalitarisme très inquiétants. La victoire des pays occidentaux dans la guerre froide contre l'URSS a été une victoire à la Pyrrhus. Rappelez-vous que les États-Unis se sont alliés avec les talibans et M. Ben Laden pour mettre en échec les Russes en Afghanistan et qu'en même temps, on sollicitait l'alliance de revers avec la Chine pour mettre plus en infériorité l'URSS. Donc la Chine, en quelque sorte, est rentrée dans le camp occidental comme un faux ami dans la mesure où la Chine avait joué le jeu des Occidentaux contre l'URSS dans les années 80. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que la Chine, très vite, a pris... On peut considérer qu'à partir de 89, la Chine se dit « Le Japon vient d'imploser, l'URSS vient d'imploser, il ne reste que deux grands pays, les États-Unis et nous. » Et donc, à partir de 89, il y a une espèce d'opportunité qui vient pour la Chine de rivaliser avec succès avec la grande puissance qu'est les États-Unis. Alors, pourquoi est-ce que les États-Unis ont commis cette erreur? Je pense que la grande erreur, c'était de penser que Deng Xiaoping ayant quitté le collectivisme pour le capitalisme en 1978, il viendrait nécessairement une deuxième étape où on passerait du totalitarisme à la démocratie. Et ça, c'était... Complètement erroné, grave erreur.
Et malheureusement, enfin en tout cas, et là chacun peut battre sa coupe, une croyance très très élargie, y compris dans ceux qui ont commencé à regarder de près ce phénomène chinois, soit à travers leur Amérique, soit à travers la Chine-Amérique, et en étant toujours convaincu que, comme vous l'avez dit à quelque part, je crois, la démocratie ne peut qu'être que le stade final de tout processus capitaliste. Et là, c'est vrai que cette fois-ci, le doute est tout à fait permis. Alors, vous parlez, je vous cite simplement pour donner un peu le ton de votre ouvrage, l'aveuglement des pays développés, c'est la seconde voie qui a été suivie jusqu'à aujourd'hui. Elle consiste à ne pas voir ce qui pourtant est de plus en plus visible, même si Cassandre a raison, on ne l'écoute pas. On comprend bien que le taux de change actuel de la Chine sert les intérêts du premier distributeur du monde. Prenez un exemple, Walmart en Amérique, qui s'approvisionne très largement dans ce pays. De la même façon, on comprend l'intérêt que les industriels occidentaux tirent de leurs opérations de sous-traitance en Chine. On comprend aussi que les analystes des grandes firmes qui produisent des biens d'équipement susceptibles d'être exportés en Chine ne disent pas un mot qui pourrait nuire à la conclusion de futurs contrats. Et je crois que là, effectivement, tout est dit et c'est absolument lumineux. Comme vous dites, l'interrogation, c'est pourquoi les dirigeants du monde occidental ne sont pas actuellement conscients de ça? Est-ce que vos relais d'informations pédagogiques sont encore à bonifier?
Oui, justement.
Alors, on y participe aujourd'hui.
Ce qui est intéressant et qu'on a cherché à développer dans le livre, c'est le comportement très différencié des États-Unis à l'égard du Japon, qu'encore une fois, ils ont poussé à l'erreur jusqu'à les terrasser au tapis, et le comportement qu'ils ont eu à l'égard de la Chine. Et là, il faut reconnaître que la Chine a eu un comportement stratégique plus intelligent que le Japon. Le Japon, dans le même temps où il marquait des points à l'exportation au détriment des Américains, fermait ses frontières aux investissements américains. Donc les investissements américains qui auraient voulu profiter du bas coût de main-d'œuvre au Japon étaient éconduits par les Japonais. Tandis que la Chine a eu l'intelligence d'attirer sur son territoire les capitaux privés américains et européens. Elle a même été au tout début à subventionner sur fonds publics chinois l'établissement d'usines en Chine. Et donc, assez rapidement, la greffe a pris, c'est-à-dire que les entreprises multinationales occidentales ont été investir en Chine. Et plus elles investissaient en Chine, plus de facto, elles créaient un intérêt conjoint entre elles-mêmes et la Chine. Et donc actuellement, on est en présence d'une difficulté énorme dans laquelle il faudrait que nos dirigeants politiques démocratiquement élus surmonte la passivité et l'inertie des dirigeants de nos multinationales occidentales pour imposer, par exemple, des barrières douanières très fortes contre le Made in China.
Oui, ou des pénalisations, ou des règles du jeu. Enfin, effectivement, il y a plusieurs mesures. Donc, vous dites, de façon très claire, que nous sommes dans une guerre économique non dissimulée et que, en définitive, le stade ultime, enfin, en tout cas, supérieur de cette guerre économique, elle se porte maintenant sur la monnaie de référence qui est donc le dollar. C'est-à-dire que le niveau maintenant supplémentaire de l'attaque de la Chine, c'est après avoir déstabilisé les économies et avoir transformé ses anciens maîtres en vassaux, en quelque sorte, c'est aussi de tuer leur souveraineté monétaire, enfin en tout cas celle de l'Amérique.
Le privilège du dollar monétaire.
Voilà, le privilège exorbitant. Alors, elle va y arriver, selon vous, ou pas ?
D'abord, on trouve toujours dans la même source Atoll, on trouve des rédactions selon lesquelles une des grandes erreurs de l'URSS, c'est d'avoir laissé ce privilège du dollar monnaie de réserve aux États-Unis. Et ils expliquent à juste titre que dans la course aux armements, la guerre des étoiles qu'ont gagné les États-Unis, il y avait comme facteur majeur le fait que les États-Unis finançaient leur effort de guerre en créant de la monnaie, monnaie que les pays du Golfe conservaient par devers eux du fait que le dollar était la monnaie de réserve incontestée. Et donc on sent bien dans cette rédaction que la Chine a compris l'enjeu de la monnaie de réserve internationale, peut-être même plus que nos autorités françaises à la tête du G20, qui mettent un peu trop le doigt dans le fait d'abolir ce privilège du dollar pour le donner indirectement à la Chine.
Oui, c'est ça. Donc, ils sont en train de scier eux-mêmes
C'est fou. Donc, la Chine a compris que le dollar monnaie de réserve était un enjeu militaire, en réalité.
C'est ça.
Et donc, elle s'emploie très fort. Et actuellement, on est dans une grande actualité à ce sujet. Je dis, suivez très attentivement l'évolution de l'or, car le marché de l'or, par son évolution, pourrait donner l'estocade finale au statut du dollar monnaie de réserve. Actuellement, on est à 1 900 $ l'once, alors qu'on était, je crois, en début d'année à 1 300.
Ouais,
donc, vous rendez compte du parcours. HSBC vient de mettre sur orbite un chiffrage à 2 600, prochainement accessible, selon eux. Si on dépasse 2 500 $ l'once, on s'expose à ce qu'un jour, les pays du Golfe disent « Nous gérons nos affaires en or et non plus en dollars. Nous sortons du dollar pour acheter de l'or et nous facturons notre pétrole en or. » Et ça changerait tout pour nous occidentaux. Voilà où on en est actuellement.
Mais d'un point de vue, on va dire, pratique, ce qui fait la force d'une monnaie, c'est son usage développé, le développement de son usage et la facilité dont on l'utilise. Or, l'or, c'est pas quand même quelque chose qui physiquement peut être... vous me direz que les DTS, c'était pas quelque chose
non plus
de très simple.
Hein,
bon. Mais oui, donc pour vous, c'est une des stratégies possibles, ça.
Mais je pense que déjà, la Chine instrumentalise la hausse de l'or pour disqualifier davantage le dollar aux yeux des banques centrales des pays tiers. Je pense qu'elle espère qu'à un moment donné, les pays du Golfe diront « on passe du dollar à l'or ». Elle sait très bien que l'or n'est pas praticable à longtemps pour l'économie mondiale. Mais quand l'économie mondiale aura expérimenté que l'or mène à la dépression, à ce moment-là, la Chine dira « pardon, nous avons quelque chose de mieux que l'or, ça s'appelle le yuan ».
Alors voilà, donc on arrive dans la dernière partie de cette rencontre. Bien entendu, on ne veut pas aborder tous les sujets parce qu'il faut laisser l'envie à nos lecteurs de s'emparer au plus tôt de ce remarquable ouvrage. Dernier élément du chapitre. Pour éviter une guerre qui ne serait plus simplement qu'économique, comment faire échec à la Chine ? Alors, vous dites que les pays développés n'échapperont pas à un affrontement avec la Chine. Les leçons des crises, vous les avez tirées. Comment donc faire échec à la Chine sans aller dans l'affrontement frontal ? Je crois qu'à quelque part d'ailleurs, ce qui m'a très impressionné, je crois que c'est dans votre ouvrage que j'ai vu ça, vous dites, alors je ne sais pas quelles sont vos sources, que la Chine aurait une organisation souterraine, mais alors physiquement souterraine, des tunnels dans lesquels il y aurait un arsenal atomique qui serait totalement inaccessible, même par un bombardement nucléaire.
Oui, c'est source chinoise, relayée par Financial Times.
D'accord.
Ça date d'environ 2 ans. Un tunnel de 5500 km qui est équipé de lance-missiles à tête rétractable et porteur d'ogives nucléaires. Et avec ça, la Chine est le seul pays à disposer d'une artillerie de deuxième frappe.
Oui.
Autrement dit, si par surprise le territoire chinois a été vitrifié par une attaque américaine surprise, la Chine aurait la capacité de punir les États-Unis grâce à ce tunnel qui aurait résisté au bombardement nucléaire et qui pourrait, lui, envoyer des missiles.
Et ça, on est sûr que ce tunnel existe.
Oui.
Parce que c'est, on va dire que c'est, je l'ai découvert uniquement dans la...
Les sources sont... Oui, ces sources chinoises, ils ont même donné l'indication que c'était à l'intérieur, c'est-à-dire du côté presque à la frontière avec la Mongolie, donc le plus à l'intérieur possible de la Chine. Et je n'ai pas vu de démenti...
Donc ça veut dire qu'ils ont la Chine a une stratégie non seulement... offensive économique, mais défensive sur le plan classique, en quelque sorte, et y compris nucléaire.
Je me rends compte, à mesure que je défends mon livre, que souvent l'interrogation vient, mais vous nous décrivez un aspect intentionnel de la politique chinoise, comment pouvez-vous le prouver ? Et à ça, j'ai commencé à faire mon propre argumentaire, c'est-à-dire je prétends qu'on peut aligner 15 arguments qui montrent que la Chine veut s'emparer de l'hégémonie et rapidement. Un des premiers arguments qui me vient à l'esprit, c'est l'importance de leurs réserves de change. 4 900 milliards de dollars de réserves de change si on ajoute ce qui est dans les banques centrales et ce qui est dans les sovereign wealth funds. Pourquoi autant de réserves de change ? Ça n'est pas nécessaire, c'est simplement une façon de bousculer.
Mais est-ce que ce n'est pas le résultat aussi du fait que, un peu comme en parallèle, les Allemands ont une hantise historique de l'inflation, la Chine a une hantise historique de tomber sous le joug du FMI du fait de son inconsistance, d'un déficit, etc. Alors, c'est bon. Donc,
Elle est allée très au-delà, oui.
Voilà, d'accord. Bon,
initialement, on en pouvait penser ça, mais maintenant, 4 900 milliards de dollars,
c'est fou.
L'ordre de grandeur de toutes les réserves de change dans le monde, c'est 12 000 milliards de dollars.
Donc c'est la moitié.
Vous vous rendez compte. Et le premier derrière, c'est le Japon avec 900. Donc, ils ont 5 fois plus que le suivant. Ça montre quand même une volonté de devenir le banquier du monde.
D'accord.
Et actuellement, vous avez aussi, deuxième point qui va dans le même sens, la Chine se flatte publiquement d'être le vrai FMI pour l'économie mondiale. Il y a eu, au moment où Mme Lagarde a été adoubée par Pékin, il y a eu un article du Quotidien du Peuple, traduit en français, dans le Quotidien du Peuple version française, que les Européens étaient très étranges de vouloir à toute force s'emparer du FMI. Le FMI, selon eux, est une boîte vide dès le moment où la Chine n'y met pas de l'argent, et non pas tort. Et ils ont, à cette occasion-là, dit « Le vrai FMI, c'est nous. Sous-entendu, vous Inde, vous Brésil, si un jour vous avez des difficultés, vous serez obligés de recourir à nous. Donc vous n'avez pas intérêt à vous fâcher avec nous. » Voilà, donc. Et alors, sur le plan purement militaire, vous avez ce qu'on a dit, le tunnel. Vous avez aussi le fait qu'ils ont sorti leur premier porte-avions. Ils ont une flotte de sous-marins nucléaires extrêmement développée, extrêmement aguerrie. Ils ont mis au point le chasseur-bombardier furtif. Enfin, la course aux armements est déjà là.
D'accord. Voilà. Alors, écoutez, je crois que vos arguments sont solides. Vous êtes très, très impliqué dans les arguments que vous défendez. Et je dois dire que... pour tout lecteur, c'est une ouverture sur la réalité des enjeux de politique générale et internationale qui est assez remarquable. Donc, je rappelle votre ouvrage, La visée hégémonique de la Chine, l'impérialisme économique, par Antoine-Marie Brunet, Jean-Paul Guichard, tous les deux de brillants experts économistes, qui ont fait paraître donc chez L'Harmattan cet ouvrage de 204 pages, 21 euros. En tout cas, bravo, et je suis convaincu que nous aurons l'occasion de revenir sur cette réflexion exceptionnelle qui fera date et espérons qu'il rapidement sera intégré par l'Occident avant qu'il ne soit trop tard.
Merci.
Merci à vous, Antoine
Brunet.
Merci
pour votre invitation.
Au revoir.